sur ce pasouk où Hachem a parlé à Moshe et à Aaron et il leur a ordonné, il leur a donné les ordres concernant les Bnei Israël. Alors sur le début du verset, là où Dirtiv fait référence à Hen, Kol Eile Yifalkel, Pamaim Shalosh Im Gaver, Shalosh Pamim Mamtin La Adam, Shim Asa Tshuva Mutav, Vim Lav Umegalgel Alav Et Arishonot. À partir de ce verset de Iov, le Midrash le dit comme ça. Il dit, Akadosh Baruch Hu, il laisse l'homme faire, il lui laisse des délais. C'est-à-dire qu'il fait une faute, et au bout du délai, c'est-à-dire une fois, deux fois, et puis au bout de ce délai, s'il fait tshuva, c'est bien. Vim lav, et sinon, alors, ou melgalgel alav, est arishonot. C'est-à-dire, en fait, ces délais, c'était des sursis. Et si le sursis tombe, alors on paye pour tout. Melgalgel alav est arishonot. וכן אתה מוצא כשאמר הקדוש ברוך הוא למשה. On trouve ça, כשהשם a parlé à משה רבינו, il lui a dit לך ואשלחך אל פרעה. השם lui a dit va, je t'envoie vers פרעה. אמר תחילה, משה רבינו a dit והם לא יאמינו לי. D'abord, Moshe Rabbeinu a dit, au sujet des Bnei Israël, il a dit, ils ne me croiront pas. Et ensuite, Vachakach Amar, Loïs Dvarim Anochi. Et Hachem a insisté, et Moshe Rabbeinu a dit, Shlach Navi Ad Tishlach, envoie qui tu veux. Alors, Shalosh Pamim. C'est trois fois qu'il a refusé, Moshe, d'aller. וכיוון שלא חזר בדבריו ואמר הן בני ישראל לא שמעו אליי ואיך ישמעני פרעה אלא כתכם פה אלא ופת תשובה אלא כתכם נלום פז אקוטה או כתה דונק אינטרסי המקוטה כמון פרעה כיה תוס אופי אינטרסי המקוטה כמון לוי מקוטרתיל נתייחד הדיבור על אהרון אימו. En conséquence, la parole divine s'est concentrée non seulement sur Moshe, mais aussi sur Aaron. C'est-à-dire que Aaron a été inclus dans la parole divine à la suite de ses refus successifs de Moshe Rabbeinu. Daou Dirtib, c'est pour ça que le verset dit va yidaber Hashem el Moshe ve el Aaron. Hashem a parlé avec Moshe Rabbeinu et avec Aaron. Deux, trois fois, Hachem, on ne peut pas dire qu'il pardonne, n'est-ce pas? Ou Mamtin, il attend. Il attend avant de sanctionner. Mamtin, ça ne veut pas dire pardonner. Mamtin, ça veut dire attendre. Donc il attend, il ne sanctionne pas. Si, la quatrième fois, par exemple, l'homme fait tshuva, alors tout passe. Mais s'il ne fait pas tshuva, hein, alors il paye pour les trois fois où Hachem n'avait pas sanctionné. C'était en attente. Pardon? Trois fois. Il attend trois occasions. C'est marqué ici, trois fois. Trois fois Hachem a dit à Moshe d'y aller. Trois fois Moshe a répondu qu'il ne voulait pas y aller pour Il a fourni trois réponses différentes, trois raisons différentes. Et la quatrième, il n'a pas fait de tchouva. Alors, la sanction est que Moshe Rabbeinu n'est plus tout seul. Il n'est plus tout seul, c'est-à-dire qu'Hachem ne lui parle plus à lui tout seul. Nityached Hadibour, la parole est le Yichud, la parole s'est singularisée non seulement pour Moshe, mais aussi pour Aaron, avec lui, sur le même plan. C'est assez terrible, quoi.
Il y a un deuxième point terrible, c'est que Aaron est impliqué sans qu'il y ait eu de mise en, qu'il ait été mis en quelque sorte en, il s'est été convoqué sans interrogatoire comme Moshe a eu, et qu'ensuite il va tout subir, ça va être, il va être rendu solidaire de tout ce qui se
passe. Oui.
Alors qu'il est passif.
Oui. Non, parce qu'il n'est pas complètement assis, parce que la parole qui s'adresse à Moshe, en vérité, maintenant, on sait que cette parole s'adresse à Aaron aussi. Donc, il est englobé dans la, avec Moshe, Imo, avec lui. C'est-à-dire que désormais, le récepteur est à deux têtes, quoi. À Moshe et à Aaron. Bon, on va voir pourquoi c'est terrible. C'est terrible parce que enfin, on peut ne pas entendre que ce soit terrible parce qu'on ne sait pas ce que ça veut dire d'être le seul récepteur de la parole divine. C'est probablement d'une jouissance absolument extraordinaire d'être le seul à recevoir cette parole. Elle vient là avec toute sa... Elle vient là avec toute sa force, toute son énergie. C'est dans cette paracha que ça se voit. Dans la paracha de cette semaine. Dans la paracha de cette semaine, il n'y a pas le nom de Moshe. Ben, la Torah me dit, c'est parce que ça vient de la cause de ce que vous connaissez bien, que quand, à la suite du Vaudor, ça veut dire que cette paracha, il faut la lire comme étant après le Vaudor, et pas le Vaudor, il est dans Kittissal, la semaine prochaine, l'histoire du Vaudor. Mais en fait, cette paracha-là, d'après le Baal HaTourim, elle est après le Vaudor. Elle n'est pas à sa place, vous savez. Puisque, consécutivement au Vaudor, Hachem a dit à Moshe d'aller détruire le clan d'Israël, et il lui a proposé de continuer avec lui, Moshe. Et Moshe n'a pas accepté, et il a dit, si tu ne pardonnes pas au clan d'Israël, alors efface-moi de ton livre. Hachem l'a effacé de la paracha de Tetzaveh. Il y a une paracha du livre, du Sefer Torah, où le nom de Moshe ne figure pas. Mais, curieusement, le nom de Moshe ne figure pas. Mais la paracha s'appelle Ve'ata Tetzaveh. Et toi, ordonne. C'est-à-dire que Hachem dit à Moshe, tu vas, non pas comme d'habitude, à ta tzav et devenir Israël, où le tzav veut dire, tu donnes des ordres en mon nom, en quelque sorte. Toi, tu ordonnes, mais c'est... Mais ata, toi, tetzaveh, c'est une redondance. Ve'ata, tetzaveh, une redondance, c'est que les choses doivent être entendues comme si elles venaient vraiment de toi. Et juste après, donc là, ata, tetzaveh, c'est l'histoire de l'huile d'olive pure qu'il faut amener à Moshe Rabbeinu pour la menorah. Et ensuite, ve'ata, tetzaveh, ve'ata, t'akrev ve'lav, elecha, pardon, akrev ve'lecha, pas t'akrev. Après Verecha, c'est à toi tu vas rapprocher, c'est toi qui vas rapprocher Aaron de toi, tu vas l'approcher de toi, c'est ici, Tu vois, maintenant on demande à Moshe, rapproche-le de toi, et tu vas, toi Moshe, tu vas l'installer comme Kohen Gadol. Et pour Moshe Rabbeinu, ça veut dire que c'est pas lui qui sera Kohen Gadol. Ça, il l'a compris, quelque part dans le Midrash, c'est écrit que quand Hachem lui dit Aaron Achicha, ton frère Aaron Halevi, c'est lui qui va parler. Il lui dit, ton frère Aaron, il aurait dû être Lévi. Et maintenant, il va devenir Kohen Gadol. Lui et sa descendance. À ta place. Moshe Rabbeinu aurait dû être Meler, ce qu'il va rester, ce qu'il va être, mais aussi Kohen Gadol. Il aurait dû avoir les deux. Et la Kehuna, elle a ceci de particulier qu'elle se transmet à la descendance. Moshe Rabbeinu est le maître, le grand maître de la Torah, mais la Torah elle se transmet pas à la descendance. C'est-à-dire le rôle de Moshe Rabbeinu ne passe pas à ses enfants. La Torah elle est ouverte à tout le monde. Comme on dit, la Torah Munachat Bekeren Zavit, celui qui veut il l'apprend. Il n'y a pas de, tandis que Kohen Gadol, Kohen ou Kohen Gadol, tu ne veux pas décider, tiens aujourd'hui je vais devenir Kohen. Ça ne marche pas. Et donc c'est dans cette part que quelque part on entend bien que c'est toi qui vas faire le travail de rapprocher. C'est comme si je mettais juste avant en introduction ce morceau de Midrash, d'accord, où Hachem dit désormais je parle à Aaron aussi, et maintenant toi tu vas lui céder, parce que là c'est Aaron, il va entendre comme toi, donc vous êtes deux. Mais Moshe Rabbeinu, il perd quelque chose, il perd cette exclusivité. C'est comme dans une relation d'amour, si on disait à quelqu'un, maintenant il y a quelqu'un d'autre à côté de toi. Ça n'enlève pas la relation avec toi, mais il y a aussi quelqu'un d'autre. C'est énorme. Alors là, Hachem lui dit, mais cette fois-ci, la Kehuna, de là en vérité, tu vas la donner complètement à Aaron. C'est toi, comme si, pourquoi c'est lui qui rapproche, parce qu'en réalité c'est lui qui aurait dû l'être. Donc il y a toute cette démarche qui est demandée à Moshe Rabbeinu, et qui est, là ça doit être, et pour que Moshe Rabbeinu ne soit pas trop triste, si on veut parler comme ça, alors on a fait précéder le Ata, Krev Elecha, rapproche à Aaron et donne-lui la Kehuna, de la Menorah, où on dit que l'huile, il faut l'amener à Moshe Rabbeinu, et la Menorah, c'est la Torah chez Baal Peh. Bon, la Torah, c'est écrite, c'est les Luchot, c'est le Aaron, dans lequel il y a les Luchot, etc. Torah. Et la Menorah, ça représente la Torah chez Baal Peh. C'est-à-dire toute la capacité de Pilpoul, la capacité de Chidouche, etc. Et ça, c'est donné à Moshe Rabbeinu. Donc pour le consoler en quelque sorte, pour lui dire non mais ça tu l'as pas perdu, ça c'est toi, mais ça passe pas à la génération, tandis qu'à Aaron on voit tout de suite que ça passe dans les générations, parce que c'est marqué Aaron ou Banav, et il va installer comme Kohanim, comme Kohen Gadol Aaron, et comme Kohanim ses quatre fils. Donc tout ça c'est la suite de ce qui se passe là, et notre Midrash dit que c'est quelque chose qui est arrivé parce que Moshe a refusé. Et nous, par ailleurs, on sait dans d'autres midrashim que si Moshe Rabbeinu a refusé, c'était à cause d'Aaron. Il ne voulait pas passer par-dessus son grand frère Aaron, être lui un peu le planqué, quoi. Et lui, il n'était pas sur le terrain en Égypte. Non. Maintenant, il arrive et il prend tout, quoi. Il dit, je ne peux pas passer par-dessus Aaron. Et à la fin, quand Hachem comprend ou admet une partie de l'argument de Moshe Rabbeinu, il lui dit, mais n'aie pas peur. Moi, je témoigne que Aaron, quand il te verra arriver, il va te voir accéder à la fonction, arriver comme le grand patron, comme le Melech, mais ça marque Belibo. Hachem dit, je témoigne qu'il s'en réjouira dans son cœur. Ça n'y a qu'Hachem qui puisse témoigner que c'est dans le cœur. Parce qu'on peut toujours manifester la simcha, ça ne veut pas encore dire. Hachem dit, il n'y a absolument rien dans le cœur d'Aaron. Ça ne le dérange absolument pas. Mais d'un autre côté, c'est une grandeur de Moshe Rabbeinu. Hachem lui propose la grandeur, si on veut, et il dit, mais je ne peux pas passer par-dessus la tête de mon frère. Eh bien, cet argument que Moshe Rabbeinu fait valoir, Hachem sait bien pourquoi Moshe Rabbeinu le dit, c'est tout, donc, qu'il le dit, même si Moshe Rabbeinu il dit, il donne des excuses, parce que, bon, il ne va pas dire, je ne peux pas. Hachem ne l'admet pas, il ne voit là-dedans qu'un refus d'obéir à Hachem, un refus répété, répété, parfois, et la quatrième, il ne fait pas tchouva, et tac. Et donc, qu'est-ce qu'il y a? C'est que, voilà, il n'y a plus, du point de vue de la réception de la parole divine, il n'y a plus Moshe tout seul, mais quelqu'un d'autre le reçoit, en même temps que lui. C'est-à-dire, quelque part, il y a une espèce d'alter ego dans la réception de la parole divine. Et ce que Kahn faisait remarquer que Aaron va être sanctionné pour ça, ça veut dire que Aaron est véritablement, on parle que de Moshe Rabbeinu, mais Aaron il est sur le même plan. Il a reçu les ordres de la même manière et on ne va pas le répéter à chaque fois. Parce que maintenant c'est décidé, voilà. Aaron recevra en même temps que Moshe. Donc même si en fait c'est Moshe qui frappe au lieu de le rocher, mais Aaron était concerné directement. Il aurait, puisqu'il a reçu les mêmes ordres que Moshe, il aurait dû intervenir, le cas échéant. Enfin, c'était le cas échéant, donc, il fallait qu'il intervienne, puisque Moshe Rabbeinu s'était mis en colère, ou, etc. Donc, Aaron aurait dû intervenir, le calmer, et remettre les choses en place. Et c'est la raison pour laquelle Aaron, lui aussi, est sanctionné, parce que sinon, comme disait Kahn, on comprend rien. Pourquoi Aaron qui a rien fait, pourquoi lui non? C'est marqué Yahal Loheman Tembil Abdisheni, parce que vous m'avez pas fait confiance de me sanctifier. Le vous en fait. Pourquoi vous? Il n'y a que Moshe. Pourquoi tout à coup Aaron aussi? Avec ce midrash là, hein, c'est clair et net. Il est exactement sur le même plan. C'est une sanction de ne pas être le seul à entendre.
J'ai quand même une question. Ok, mais il y a à un moment donné, il paraît que Moshe il a du mal à. Pareil, je sais pas si on a mis des rêves ou des trucs comme ça dans la bouche. Voilà. Si on fait le raisonnement par rapport au raisonnement inverse, il continue de recevoir, d'être l'unique réceptacle de
ses paroles. Exactement.
Il continuerait d'être l'unique réceptacle de ses paroles divines, en tant qu'unique réceptacle qui jouit un maximum. Bon, très bien, mais après, c'est bien joli, mais. Quelqu'un qui a un problème d'expression, pour lui, c'est plus une lourdeur de devoir réexprimer cette parole qu'il a reçue, alors qu'au contraire, moi, finalement, je ne vois pas en quoi, finalement, c'est quelque chose de négatif, cette conséquence, parce que, finalement, ça le soulage quelque part, parce que c'est quelque chose qu'il a du mal à faire. Donc maintenant qu'il a, comment dire, du multiplexage sur Aaron, c'est
la réponse c'est Az Yashir Moshe. Non seulement il parle parfaitement, mais il chante, etc. Non, il chante. C'est... Bon, vous me direz, il y a des gens qui ne peuvent pas parler sans bégayer, mais ils chantent et sans bégayer. Il y a des artistes qui, quand ils jouent, etc., même le bégaiement, il n'y a plus de bégaiement. Bon. Mais, en l'occurrence, Chazal disent comment c'est possible, tout à coup il se met à chanter, qu'il parle. Parce que il avait des difficultés de parler, il faut encore expliquer ce que ça veut dire. Il pouvait difficilement parler quand il s'agissait de parler de sa propre initiative. Mais quand il s'agit de redire la parole d'Hachem, ce qui va être tout son rôle, il n'y a aucun problème, on voit nulle part qu'il aurait des problèmes. Après, les Chazal vont expliquer qu'à Paro, il ne pouvait pas parler. Parce que la parole de Moshe était trop élevée pour qu'elle puisse s'adresser à Pharaon. Donc il fallait un espèce de transformateur pour redescendre la parole de Moshe à un niveau audible pour Paro. Ça, c'était le travail que faisait Aaron. Moshe pouvait parler à Aaron, et Aaron pouvait parler à Paro. Ici, on ne comprend pas très bien pourquoi Moshe doit parler à Aaron et Aaron à Paro, puisque, d'après ça, Aaron recevait les ordres aussi bien que Moshe. Finalement, bon, c'est Aaron qui parle, parce que... Mais d'un autre côté, on ne comprend pas très bien. Si Aaron reçoit la parole au même niveau que Moshe, pourquoi lui peut parler à Paro et pourquoi Moshe ne pourrait pas parler à Paro? Si c'est un niveau, c'est question de niveau. Donc c'est pas clair, peut-être les midrashim sont pas... C'est les midrashim contradictoires, je ne sais pas.
Est-ce que... Quand vous dites c'est terrible...
C'est le Midrash qui présente ça comme...
On peut comprendre du point de vue de Moshe, mais quel est le, on n'arrive pas bien à saisir, en tout cas moi, le manque à gagner pour le clan, pour les d'Israël, de voir que ces clans aient été doublés. C'est-à-dire, on voit bien du point de vue de Moshe, mais pour nous, quel est le manque à gagner?
Qu'il faut qu'il y ait un manque à gagner pour nous aussi. C'est une sanction chez nous. Pourquoi il faut que nous y perdions également?
Je ne sais pas, il ne pourrait pas y avoir, mais il ne pourrait pas y en avoir, mais à ce moment-là, on a l'impression que ce qui est terrible pour Moshe ne lui fait pas de leçon.
La leçon, c'est seulement que nous le sachions. Parce que si on ne nous le dit pas, nous, on n'aurait pas osé dire une chose comme celle-là. De nous-mêmes, on ne va pas dire une chose comme celle-là. On va dire que Hachem lui a dit, comme Hachem lui dit autrement, Hachem lui dit, Aaron yenviacha. C'est-à-dire, toi, tu seras le dieu de Paro, et Aaron sera ton prophète. C'est-à-dire, celui qui va parler pour toi. C'est le pasouk.
Est-ce qu'on pourrait aller jusqu'à dire que si ça ne s'était pas passé comme ça, que Moshe aurait reçu à la fois la malchoute et la il n'y aurait peut-être pas eu ce souhait du peuple à un moment donné de dire moi je veux être toutes les nations mais je veux aussi un roi et qu'ici il y aurait eu ensuite peut-être moins de tensions et de drames à l'intérieur de l'histoire en fait d'Israël avec la scission des deux territoires et ce qu'on sait ensuite ce que ça donnait avec les rois et qui ont même été parfois jusqu'à exterminer leurs propres prophètes etc.
Je ne sais pas répondre à cette question, l'histoire fiction, je ne sais pas qu'est-ce qui se serait passé.
C'est vrai, on essaie toujours de dire c'est des modèles, donc qu'est-ce que ça fait quoi cette histoire de
Mais là, si vous voulez, ce que dit le Midrash, le Midrash le dit, donc on entend, il faut essayer de comprendre ce qu'il veut. Nous, quand on lit le texte, on ne voit pas ça, on voit que Hachem lui a clairement dit, quand tu ne veux pas parler à Paro, effectivement, ce n'est pas toi qui parleras à Paro. Celui qui va parler à Paro, ce sera Aaron. Mais toi, tu dois apparaître comme le Dieu pour... Tu seras l'Elohim de Paro. Parce que, il faut d'abord, probablement, pour que, visiblement, qu'est-ce qu'on veut? On veut que Paro reconnaisse Hachem. Donc, il faut d'abord qu'il reconnaisse qu'il n'est pas le Dieu le plus élevé. Donc, il faut qu'il expérimente un Elohim au-dessus de lui. Un Dieu au-dessus de lui. Donc, maintenant, tu vas être au-dessus de Paro et tu vas lui montrer que c'est toi le maître et pas lui. Et maintenant, c'est pas toi qui va parler directement, et peut-être d'ailleurs que ça montrera encore mieux à Paro que tu prends même pas la peine de lui parler, quoi, quelque part, on peut même pas. Mais bon, voilà un sous-fifre qui va parler, quoi, pour moi, qui va te parler, tu mérites même pas que je te parle. Et puis ensuite, une fois que il aura bien compris ça, alors Moshe lui dira, mais c'est moi, je ne suis que celui qu'Hachem a mis, donc je suis au-dessus de toi, mais il y a au-dessus de moi, je ne suis pas la divinité la plus élevée, pour essayer d'aider Paro à monter, à concevoir qu'il y a à accéder à quelque chose de comprendre Elohim, quoi, quelque part que c'est... Ça, c'est peut-être une nécessité pour lui pour Paro, pour que, bon, c'est comme ça qu'Hachem veut que ce soit. Ce midrash là, il est presque un peu gênant, quoi, si vous voulez. Maintenant. Ben, il est un peu gênant parce qu'il est contre ce verset qui dit que Aaron y est neviacha. Que Aaron sera ton avis. À moins qu'on veuille dire, et c'est seulement au temps de Paro, qu'il y aura, Aaron ne sera que le Navi, mais après, par la suite, pour les bénis Israël, vous serez sur le même plan. Après ça, Imo, c'est Nitiached Adibour Imo. Le Yifrut du Dibour, c'est-à-dire la parole divine, sera uniquement, qui aurait dû naître que pour toi, elle sera pour Aaron avec toi. Justement, mais c'est peut-être pas nécessaire de répéter à chaque fois, puisque maintenant, d'après ce midrash, on le sait, c'est terminé.
À chaque fois, la parole est départagée.
D'après ce midrash, c'est ce qui est dit. La parole ne sera plus mitiachedet. Maintenant, on peut aussi dire que peut-être que c'est une fois que la parole ne sera pas singulière pour Moshe Rabbeinu.
Comment est-ce qu'il faut comprendre la faute de Moshe Rabbeinu? Est-ce que c'est la faute de ne pas avoir écouté ce qu'Hachem lui a demandé?
Non, la faute, elle est que la bonté, la modestie, elle a sa place, mais elle n'a pas sa place quand c'est Hachem qui donne un ordre. Parce que sinon, à la limite, Abraham Avinu, il aurait pu dire à Hachem, oh, c'est super ce que tu me dis, c'est très bien, mais moi j'aime mon fils, et je n'ai pas du tout l'intention de le sacrifier, je veux dire. Moi j'aime mon frère et je ne vais pas passer par-dessus lui. Et j'aime Abraham, il aurait pu dire, moi j'aime Mitzrak, je ne vais pas passer par-dessus lui. Je ne vais pas le tuer pour... etc. Donc là, il faut qu'il s'écrase. Il y a un moment où, devant l'ordre divin, c'est ça le problème, c'est que toutes les bonnes midotes, etc., elles sont toutes à leur place. Mais il y a des bonnes choses, des bons comportements, qui, dans certaines circonstances, deviennent de mauvais comportements.
Est-ce que c'est de là qu'on apprend que vous trois fois le chazaka?
Non. D'abord, c'est un passouk dans Iov. Il ne pourrait pas servir de dans la halakha. On ne peut pas prendre une halakha de Iov.
Je ne suis pas d'accord.
Oui, mais je sais que tu n'es jamais d'accord avec le Midrash.
Non, mais
alors, bon, tu n'es pas d'accord, qu'est-ce que j'y fasse?
Tu
peux expliquer, regarder ce que dit le Midrash.
Non, mais j'ai envie d'expliquer sur quoi je ne suis pas d'accord.
Non, mais je ne sais pas si c'est très intéressant.
Je ne suis pas d'accord sur le fait que quand. Parce qu'il y avait bien au moins une fois où il y avait un ordre, il devait d'abord faire la guerre, tuer tout, et il y a Moshe qui négocie et qui dit on va peut-être proposer la paix, puis s'ils ne veulent pas la paix, ok, on ne combattra. Et il me semble que finalement cette négociation a été agréée.
Oui, ça veut pas dire que Moshe, quand Hachem lui ouvre une porte, par exemple, comment est-ce que Moshe a pu dire, je suis pas d'accord, efface-moi, etc. C'est parce qu'Hachem lui a dit, laisse-moi et je vais les détruire. Alors, Moshe Rabbi lui a dit quoi? Je te tiens pas par les baskets. Si tu veux les détruire, détruis-les. Pourquoi tu dis laisse-moi? Donc, Moshe Rabbi a compris qu'il y avait une ouverture et qu'il pouvait ne pas laisser. Donc, puisque je peux ne pas laisser, alors je vais pas laisser. Il a compris qu'Hachem lui donnait le rôle de, ah non, c'est, à la limite, c'est toi qui vas décider. Parce que si tu dis rien, je le fais, mais si toi tu interviens, je suivrai ce que tu demandes. Et il y a des Midrashim qui disent effectivement que quand Moshe Rabbeinu a demandé à Hachem, qu'Hachem pardonne, bon, en fait, le Gaoni, c'est qui est un sursis, pour les bénis. Le sursis est d'ailleurs tombé aux explorateurs. Alors c'est Hachem, c'est enregistré comme une façon où Hachem a cédé à la demande de Moshe Rabbeinu. Vous vous souvenez à la fin de la vie de Moshe Rabbeinu, quand Moshe Rabbeinu dit qu'il veut entrer quand même en Eretz Israël, alors Hachem lui dit, ah bon, on a déjà eu un conflit. C'est moi qui avais cédé l'autre fois. Si tu veux, on recommence l'histoire. Et c'est toi qui cèdes. Alors tu entreras en Eretz Israël. Tu veux que je cède deux fois? Non. Moi, j'ai cédé une première fois. Tu voulais que je laisse vivre le clan Israël, j'ai cédé. Maintenant, je dis que toi, tu dois mourir, tu ne peux pas entrer en Eretz Israël. C'est toi qui dois céder. Mais si tu veux, on rebobine l'histoire, et tu cèdes, et tu me laisses détruire l'ennemi Israël, continue avec toi, et à ce moment-là, tu entreras en Eretz Israël. Donc, c'est présenté comme... voilà, j'ai cédé, bien qu'en réalité, Hachem a cédé après avoir dit à Moshe, tu peux demander, quoi. S'il n'y a pas cette ouverture, Moshe ne demande rien du tout. Tu ne peux pas demander.
Moshe a perdu deux fois à cause de sa volonté.
Pardon?
Moshe a perdu deux fois à cause de sa volonté. La première fois parce qu'il avait la volonté de son frère, la première fois parce qu'il avait la volonté
d'Israël. Voilà. Pardon? Là-bas aussi, c'est aussi lui qui a là, Hachem lui a dit ne les prends pas, il a dit mais pourquoi pas, ils sont sincères, etc. Ouais, bon, Hachem lui a dit, si tu veux, tu peux envoyer. Ah, c'est-à-dire que, évidemment, Hachem qui sait tout, il dit mais bon, il y a une place pour l'homme avec des erreurs. C'est fait pour, il y a des erreurs. La vérité, du point de vue du clan Israël, je ne sais pas répondre à la question qu'est-ce que ça change pour le clan Israël qui soit deux à recevoir la parole divine. Je comprends bien que pour Moshe Rabbeinu, c'est le jour et la nuit. Encore que, peut-être que ses relations avec Aaron sont telles que...
Non,
je connais. Enfin, il y en a sûrement, mais je ne suis pas sûr qu'il y en a sûrement. Je n'en connais pas.
Est-ce qu'on pourrait considérer que la bonté n'est pas exceptionnelle, ce ne serait pas si terrible que ça, parce que nous, on projette une réaction humaine assez normale.
Oui, non, mais c'est le Midrash qui dit ça.
C'est partagé, c'est douloureux.
Le Midrash dit, le Midrash présente ça comme une sanction. Le Midrash, il dit, Hachem, il laisse passer une fois, deux fois, trois fois, et après, il me galgale et t'appelle. Ça veut dire, ce qu'il reçoit ici, c'est les trois. C'est pas parce qu'il a refusé la quatrième fois, enfin la troisième fois, mais c'est pour la première, pour la deuxième et pour la troisième fois. Mais galgale et t'appelle. Il paye pour toutes. Comme dans un sursis normal, quoi. On donne un sursis, je crois, quand le sursis tombe, tu payes pour tout.
On a un cas similaire avec Nedan et Dan. Ils ont reçu la nouvelle alors qu'ils n'étaient pas faisaient partie des 70. C'est fini.
Au contraire, c'est parce que tout le monde avait la nouvelle et chez eux c'est resté. Les autres ont été dans le Sanhedrin et chez eux c'est resté comme de façon sauvage, quoi. Bien, alors on va regarder un peu ce que... Bon, sur pourquoi effectivement... pourquoi Hachem procède de cette manière, on n'en sait rien. Cette idée de pourquoi ça fonctionne comme ça. Pourquoi Hachem ne sanctionne-t-il pas tout de suite? À la limite, s'il sanctionnait tout de suite, la sanction serait moins grave. Bon, voilà, et puis on pourrait se rattraper tout de suite.
C'est la question que je me pose d'ailleurs, en fait. Est-ce que... avait pris conscience que là il avait été trop loin et qu'il fallait qu'il fasse tout là. Parce que comment on peut ensuite reprocher à quelqu'un s'il n'a pas conscience?
Il voit bien qu'Hachem recommence, là, il lui demande trois fois.
Oui, mais regardez, c'est quand même assez récurrent, puisque de toute façon la discussion va continuer lorsqu'il veut détruire le peuple et il dit mais. Il voit qu'il y a une capacité de négociation, et depuis Abraham, Abraham il a négocié la destruction de Sodome pendant.
Oui, c'est juste, il y a des situations dans lesquelles on est invité à négocier. Hachem dit, est-ce que je vais... Il faut que je dise à Abraham. En vérité, quand Abraham il apprend ça, il dit, mais pourquoi il me le dit? Qu'est-ce que ça change? Pourquoi il me dit que je verrai bien qu'il va détruire ce homme, mais j'ai pas besoin... Pourquoi il me le dit? C'est bien pour que j'intervienne, sinon pourquoi me le dire? Donc c'est tout le temps une... Il y a toujours une invitation à intervenir. Quand ils interviennent, quand ils négocient, c'est qu'il y a une intervention, il y a une ouverture qui leur est faite, une invitation à négocier.
Marzou, il fait remarquer que Moshe a été puni dès la première fois, mais c'est temporaire quand il a eu la lèpre.
Il a dit du mal d'Ebné Israël, donc c'est la Shonara, donc Hachem lui a montré. Mais bon, ça, c'est parti, quoi. Alors peut-être qu'effectivement, ce Midrash-là, il ne dit pas que Moshe aurait... Parce que si on suit le Marzou ici, ça augmente la faute de Moshe. Parce qu'à la limite, tu vois bien que c'est grave ce que tu fais, puisque tu deviens lépreux, donc arrête. Tandis que l'autre Midrash qui mentionne pas ça, dit simplement que ouais, c'était une erreur, mais comme si on n'avait pas sanctionné, justement. Tout le passouk dans Iov, c'est justement... Hachem ne sanctionne pas une, deux, trois fois, et après, c'est...
On dit bien qu'il le Bachanaïm. Alors, là, le Moshe lui a dit qu'il ne se voit, il ne fera pas ce qu'il pense être.
Ah, sur 25,
le Hachem lui dit le contraire. Il reçoit un ordre d'Hachem. Et il dit non. Oui, il dit envoie qui tu veux.
Oui, mais c'est comme une alara. On voit avec Rabbi Eliezer.
C'est le contraire, c'est Hachem. Là, on est après le Sinaï. D'accord ? Ça veut dire qu'on a reçu, la Torah, et désormais, l'homme Hachem a émis. Moshe Rabbi, il a descendu la Torah. Ici, la Torah, elle est encore. On est avant maintenant la Torah. La Torah n'a pas été descendue, elle n'a pas été donnée aux hommes encore. C'est Hachem, quand Hachem lui donne un ordre, tu obéis. Oui. Tu connais pas le sujet, quand tu deviendras grand-père, on en parlera. Des fois, on attend que les enfants obéissent. Ça peut attendre. On peut attendre. C'est pas toujours suivi de. Mais bon, c'est là à dire que la seule chose qu'on attend, c'est qu'ils désobéissent.
Non mais en fait c'est difficile de sortir d'autres enseignements que celui sur lequel on revient qui est il aurait dû faire ce que si ce n'est presque sur la personnalité de Moshe en fait c'est des choses sur lui sur mais
non ce qui est important c'est que Moshe Rabbeinu il a donné des raisons. La réponse, c'est pas simplement oui. Non.
Oui.
Il donne d'excellentes raisons.
Oui.
Et Hachem corrige les raisons. Il lui dit, non, t'as pas besoin d'avoir peur, n'aie pas peur que de ci, n'aie pas peur de cela, etc. Vas-y. Et chaque fois, Moshe n'y va pas, il donne de nouvelles raisons, si on veut, mais qui toutes, au fond, viennent de ce qu'il ne veut pas, il veut pas, prendre la place d'Aaron, c'est ça. Son grand frère, il veut pas. Si vous voulez, on pourrait voir dans ce... Là, une espèce de... de situation où Aaron c'est l'aîné, c'est pas seulement le grand frère, mais Aaron c'est l'aîné, et donc devenir Melech à la place de l'aîné, c'est pratiquement lui prendre sa place. Alors Hachem l'a laissé dans la malroute. Ce dont on peut essayer de voir si on y comprend quelque chose, et c'est pas dit dans ce morceau du Midrash ici, c'est que ce qui a été donné à Aaron, c'est la Kehuna. Kehuna Gdola pour lui, Kehuna pour les autres. Qu'est-ce que c'est que ce rôle de Kohen par rapport au rôle de roi, en fait? C'est vrai que Aaron ne devient pas l'égal de Moshe. Mais il va jouer un autre rôle, dans un autre domaine. Et curieusement, Aaron va jouer le rôle de, qui est en relation avec Hachem formellement, alors que Moshe il est quotidiennement en relation avec Hachem. Et donc Aaron, enfin, le Kohen Gadol par rapport au roi, si vous voulez, quand on a un roi qui lui est en prise directe sur Hachem, qu'est-ce qu'il a de plus le Kohen Gadol en fait? Pourquoi on a besoin d'un Kohen Gadol? C'est vrai que parce que ce problème-là, nous on est tellement habitués, nous sommes tellement habitués à la séparation des pouvoirs, que quand on nous parle de quelqu'un qui aurait les deux pouvoirs, enfin donc, en l'occurrence, a priori, on a un a priori négatif sur le.
Non mais, Aaron, Moshe, effectivement, c'est très ponctuel. Et ensuite, ce sont les Ourim et les Toumim, et le Meller, il peut consulter les Ourim et les Toumim, a nécessairement besoin du Kohen Gadol.
Alors bah, le Kohen Gadol, c'est comme si on avait besoin d'un Kli, donc il a besoin d'un Kli. Mais le Kohen Gadol n'a pas de pouvoir.
Non, là, il est effectivement.
En même temps, lorsque vous dites que.
Après, il y a une affaire des Maccabées, mais enfin, bon, c'est une autre histoire.
Si ça a venu d'apprendre à la place de son frère aîné, l'histoire antérieure, celle de Moshe, les aînés ont toujours perdu leur place. Donc, il n'y avait rien de nouveau sous le soleil.
Non, il n'y a jamais rien de nouveau sous le soleil, mais. En général, même Yaakov Avinu, s'il a pris la place d'Esav, c'est sur l'insistance de sa mère.
Yehuda a perdu la sienne. Yehuda a perdu la sienne.
Momentanément, après, il l'a retrouvée.
Sur une partie, pas sur
l'autre. Yehuda.
Il a aussi quoi le dialogue, enfin, une idée de quoi le dialogue, une idée de. C'est la vie qui aurait dû prendre ça.
Non, c'est Rouven qui devait tout avoir, mais on a tout enlevé à Rouven pour d'autres raisons.
Rouven, il a perdu.
Non, mais il a tout perdu pour d'autres raisons, il était disqualifié.
Il y a une fonction très spécifique au Kohen Gadol, c'est quand même d'obtenir la capara. Est-ce qu'on va introduire cette idée-là ici?
Je sais pas. Ici, on ne voit rien dans le Midrash.
On voit rien
de tout ça. On voit seulement, ici, le Midrash, il ne parle que du fait que Aaron reçoit la parole avec Moshe, parce que le Midrash, il est sur. Vaïdaber Hachem el Moshe ve el Aaron. Vaïdsavem. Il leur a ordonné, c'est un pluriel, Vaïdsavem. Alors que d'habitude, c'est Vaïdaber Hachem el Moshe, même si en fait, par la suite, il faudra faire intervenir Aaron, etc. Regardons. Vaïdsavem el Bene Israël. Amar lahem akadosh baruchu. Banaï sarbanim hem. Mais mes enfants, c'est toujours cette histoire d'enfant sauvage, quoi. On dit qu'ils sont ragzanim, tarchanim. Hachem dit à Moshe et Aaron, il leur dit, mes enfants, ils sont, c'est pas de la tarte. Bon, sarbanim, ragzanim, ils sont coléreux, ils sont lourds, tirchas c'est du boulot, etc. Ils sont un peu sauvages. אלמנה כן תהיו מקבלים עליכם, שיהיו מקללים אתכם, שיהיו מסקלים אתכם באבנים. Je veux que vous acceptiez, Vaitzavem et Bnei Israël, c'est-à-dire il leur a donné des ordres concernant les Bnei Israël. Et Hachem dit, je veux que vous acceptiez sur de ces enfants, en sachant qu'ils vont vous maudire, ils vont vous lapider. Donc, dans votre acceptation, il y a ça. Vous acceptez tout ça. C'est pas que vous allez diriger les Bnei Israël, et puis bon, si jamais ils sont insupportables, vous enverrez votre dème. Je veux dire, bon, ça va pas. Almenaken, tiyu mekablim alechem. שיהיו מקללים אתכם, שיהיו מסקלים אתכם באבנים. Et donc, Hachem leur a donné des ordres concernant les Bnei Israël et concernant Paro. Vel Paro melech Mitzrayim, et donc les ordres concernant Paro, le roi d'Égypte, le Hotsi et Bnei Israël meretz Mitzrayim. De lui ordonner de faire sortir les Bnei Israël d'Égypte. אמר להם הקדוש ברוך הוא, היו נוהגים בו כבוד. מפרה פרה פרו, vous allez lui imposer des choses, mais mettez-y les formes. כבוד. Donnez-lui du כבוד. וחילקו כבוד למלכות. Et donnez du כבוד à l'institution de la royauté. אף על פי שאני צריך לעשות בו את הדין. Bien que je doive, c'est Hachem qui parle, bien que je doive les juger et les condamner, vous qui êtes les instruments de cette condamnation, etc., toujours du kavod. Du kavod à Paro, du kavod à l'institution. Renassa Moshe, et Moshe Rabbeinu a fait comme ça, chez Neymar, Riyardou Kolavadecha Ele Elai. Il a dit à Paro, oui, mais ils vont. Tous tes serviteurs, tes esclaves, descendront vers moi, viendront à moi. Il aurait dû dire, Atem ou Malkechem ou Basmo. Il aurait dû lui dire, toi-même, pas seulement tes esclaves viendront, mais toi-même et tous les rois, toute la noblesse, vous viendrez me supplier de. Tu m'as dit que tu ne veux plus me voir, mais vous viendrez me supplier pour que j'arrête. Et la preuve que c'était effectivement comme ça, c'est marqué, il y a comme Paro Laila. Paro s'est levé au milieu de la nuit, dans l'histoire de Makad Mechorot, et il a cherché Moshe Rabbeinu. Parce que Moshe Rabbeinu n'est plus, il avait dit à Moshe, je veux plus te voir, je te viens plus jamais. Alors il lui a dit, tes esclaves viendront chez moi. Et le Kavod, c'est, il ne lui a pas dit, toi-même tu viendras me supplier, etc. Donc il a donné du kavod. Donc quasiment on va tuer tout ce qui est autour de lui et on va lui donner du kavod. Pourquoi il faut lui donner du kavod? Pourquoi il faudrait lui donner du kavod? On s'en fiche, je veux dire.
On dit bien que s'il n'y a pas de mêlère, les hommes ne seront pas déchirés. Donc, et en plus, Moshe Rabbeinu étant lui-même amené à être mêlère, il n'a pas besoin de scier l'arbre, la branche sur laquelle il sera assis.
Il n'y a pas de notion de besoin de laisser à sa place, mais Est-ce qu'on ne pourrait pas dire simplement que beaucoup, il dit j'applique le din. Quand quelqu'un est condamné à mort, on tient compte de son kavod. C'est-à-dire, par exemple, on ne veut pas le montrer sous un jour, on ne va pas obligatoirement le dénuder si ce n'est pas nécessaire, etc. Alors, c'est son kavod. Ah, il va mourir, je veux dire. Au moment où il meurt dans une forme de dignité, quoi. Et on lui laisse la dignité. On a l'impression, j'ai l'impression que ça, c'est du même ordre que la chose suivante. Quand quelqu'un est condamné, pour prendre de nouvelles condamnations à mort, la Gemara, on voit très bien, elle dit, il est condamné à mort, il n'est pas condamné à souffrir. C'est-à-dire que dans les procédures de strangulation, on va, il faut qu'on mette quelque chose qui risque de blesser le condamné. On va serrer et ça risque de le blesser. En disant, non, il faut mettre quelque chose de doux. On est en train de l'étrangler. Oui, mais il ne faut pas qu'il souffre. Parce qu'il n'a pas été condamné à souffrir.
Oui, mais enfin, on ne bombarde pas avec des pierres en caoutchouc dans ce qu'il a.
Non, mais justement, il y avait un souci à la place des pierres en caoutchouc, on donne des vraies pierres, mais pour qu'ils ne souffrent pas plus longtemps, alors on dit ben, il faudrait qu'ils soient dénudés, parce que le vêtement risque d'atténuer l'impact des pierres, et donc il va souffrir plus longtemps. Et d'un autre côté, il y a son cabot, si on le dénude, alors est-ce que... Donc là-bas, il y a un conflit entre... D'un côté, sa dignité, son kavod, si vous voulez, et de l'autre côté, sa souffrance. Qu'est-ce qu'il faut faire primer là-bas? Bon, ça, c'est une discussion un deuxième degré. Mais il y a ce souci, il y a cette idée-là. Il faut le tuer, on le tue. On fait ce qu'il faut pour le tuer. Mais la strangulation, on peut la faire aussi bien avec quelque chose qui ne blesse pas son cou qu'avec quelque chose qui blesse. Donc, il n'y a pas de raison de lui en donner plus que ce... Et donc là, le kavod de Paro, il a été condamné à perdre une grande partie de ses richesses, de son peuple, de son armée, de ses enfants. Il n'a pas été condamné à être humilié, en quelque sorte.
Aucun des objets de l'expertise de Bourreau, il y a aussi le fait que, enfin, c'est un peu comme une relation, on se salue, mais deux, ça peut aussi rentrer dans la logique de Bluff, mentionnée avant, la logique de Bluff qui finalement, lui donner du capote, ça peut aussi l'entretenir dans ce Bluff. Après tout, je suis peut-être à la limite, parce que même Moshe Rabbeinu et son pote, ils viennent et ils me donnent du capote. Donc ça peut aussi, vis à part l'expertise de Bourreau qu'on vient de faire, ça pourrait aussi rentrer dans le souhaité.
Mais peut-être que aussi Hachem voudrait que ce soit Paro, dans ce qu'il est, qui reconnaisse Hachem. C'est-à-dire, c'est l'institution, c'est le jeune, c'est tout ce qui était en marche à cette époque-là, qui doit reconnaître, qui est encore plus fort. Si un président de région reconnaît un président national et ou l'empereur, c'est plus fort que quelqu'un qui va être rien du tout, qui va reconnaître. C'est pas aussi ce qu'il voulait. Il voulait soumettre l'ensemble de Paro dans ce qu'il est avec son institution.
C'est juste, mais.
Peut-être, hein.
Mais à ce moment-là, Hachem sait très bien que. Il a déjà annoncé, il ne vous laissera pas partir, et donc je vais le frapper de telle sorte qu'il sera obligé. Et donc, à la limite, on a déjà perdu l'espoir que Paro reconnaisse Hachem. Seulement, ce qu'on peut... Il faut peut-être, on peut prendre dans ce que vous dites, le fait que lui sera là pour témoigner que l'Égypte a été détruite.
Oui, puis quand on veut laisser la dignité à quelqu'un, c'est pas seulement pour la dignité de la personne, mais c'est sa propre dignité que de laisser la dignité à l'autre.
C'est pas nécessaire, le problème. C'est absolument pas nécessaire de lui enlever sa dignité pour la démonstration qu'Hachem veut faire. Ce n'est pas nécessaire, donc il ne faut pas en faire plus que nécessaire.
Mais tu ne vois pas le rapport. Dans tout ça, c'est toujours les histoires de statut dont on parle. C'est-à-dire, Moshe, il a statut de roi, mais il va perdre celui de prêtre. Ça va être un roi, mais qui ne va pas être respecté par ses ouailles. Pharaon, il faut lui garder son statut, alors qu'il ne le mérite pas. Je ne vois pas pourquoi c'est comme ça.
Peut-être parce que ce qui est en cause, ce ne sont pas des personnes seulement. Il y a des personnes, mais il y a aussi le rôle qu'elles jouent dans leur monde, enfin dans le monde. Et quelque part, il y a. C'est une économie, non pas de, au niveau seulement des personnes, il y a des personnes aussi, mais pas seulement des personnes. Il y va aussi de comme on dit, du statut, donc ça veut dire de l'organisation de la société, des différentes places dans la société, peut-être. C'est de ça qu'il s'agit. Rabbi Yaakov Omer, Mahu Vayetzavem, comment est-ce qu'il faut entendre ce pluriel? אמר להם הקדוש ברוך הוא שתפו הראשונים שביניהם עמכם הראשים פרדון שביניהם עמכם שככה אתה מוצא כתוב אחריו אלה ראשי בית אבותם. Il demande, qu'est-ce que ça veut dire? Vayetzavem. Il leur a ordonné de les prendre. Lui, il dit comme ça. De les Vayetzavem. Compliqué ici, cette façon de lire va être ça même en réalité. Le Etz Yosef, dans la colonne de gauche, il dit que Shatfu Arashim Shebenehem Imachem, donc associez les chefs d'entre eux avec vous, Darash Milat Vaetzavem Milashon Sakhra, le Chavruta. בישלמה אל פרו היה הציווי לשלח ישראל מארצו, אבל לישראל מהו ציוויים? וכך דרש שפירושו מלשון חיבור ושיתוף. שחיברם למשה ולאהרון, שיתפם לראשיהם שבישראל, שייסו ויתנו עמהם בעסקם. זה פוסק שמרקיה. Vous voyez ce que lui dit. En fait, quand vous regardez le verset, c'est marqué que Hachem leur a donné des ordres à Moshe et à Aaron concernant l'Ebné Israël et concernant Paro. Concernant Paro, l'ordre c'était dites-lui de faire sortir l'Ebné Israël d'Égypte. Mais c'est pas marqué quels ordres. Qu'est-ce qui. On n'a pas dit qu'il devait dire quelque chose de spécial au Bnei Israël dans ce verset-là. Donc le mot Vaïtsavem, ici, concernant les Bnei Israël, on ne comprend pas puisqu'il est suivi de rien du tout. Il a donné, normalement, c'est un tzivoui, c'est des ordres. Il n'y a pas d'ordre. Dans le verset, il n'y a d'ordre donné à transmettre, donné à Moshe et Aaron pour qu'ils les transmettent aux Bnei Israël. Mais il n'y en a pas. Il y a des ordres qui sont donnés pour qu'ils les transmettent à Paro, renvoie les Bnei Israël. Mais c'est pas marqué du tout qu'il leur a donné, il a donné un ordre au Bnei Israël, parce que dans sa totalité c'est Vaïdaber Hashem el Moshe vel Aaron, Vaïtsavem el Bnei Israël, ve el Paro melech Mitzrayim, le Hotsi el Bnei Israël melech Mitzrayim. Point bas, point. C'est même paragraphe d'ailleurs. Fin du paragraphe. Donc vous voyez, il y a ce qu'il doit dire, ce qu'il faut qu'ils disent à Paro, mais il n'est rien dit de ce qu'ils doivent dire au Bnei Israël. Donc du coup, le mot Vaïtsavem, ils ont proposé de le lire autrement. Non pas Vaïtsavem au sens de la chante Sivouï, mais Tzadik Vav comme Tzavta. Tzavta, ça veut dire, on a vu ça dans Baba Kama, c'est. Mais bon, là-bas c'est la pince, là-bas du... Mais ça veut aussi dire l'être ensemble, c'est prendre ensemble avec la pince. C'est de prendre ensemble avec vous. D'accord. Chaboura, liez-les à vous. C'est-à-dire, liez les Bnei Israël. Il aura donné un ordre aux Bnei Israël, à Moshe et Aaron, d'associer les chefs des Bnei Israël à Moshe et Aaron. D'accord. Ça veut dire, associez-les à vous. Donc ça veut dire qu'on distribue Vaïtsavem qui a deux sens, un sens pour Paro et un sens pour les Bnei Israël. Ça veut dire le même mot qui, comme il a deux sens, ben j'utilise un des sens pour l'appliquer aux Bnei Israël et un autre sens pour l'appliquer à Paro.
Celui pour les Bnei Israël, c'est ramener-les à vous, et celui avec Paro, c'est.
C'est faites sortir, donnez-lui l'ordre de laisser sortir les Bnei Israël d'Égypte.
Mais la traduction la plus courante de Vaïtsavem, c'est quoi?
C'est l'ordre. Comme la parasha cette semaine. Mais à ta tête savait que la mitzvah, tu vois, c'est tout la même. La même racine, ça dit grave. C'est intéressant de dire à des chefs, bon, vous êtes, je vous parle à vous, qu'est-ce que associez les autres? C'est-à-dire qu'on. D'accord. Ne prenez pas de décision sans les autres. Associez les autres. Quelque part, ça veut dire, vous, dans le clan Israël, vous êtes roi, Kohen Gadol, etc. Associez les autres. Prenez les chefs avec vous. Les chefs, les autres, les chefs des Bnei Israël que eux se sont donnés, que les chefs sont déjà existants comme tels, prenez-les avec vous. D'accord. A priori, c'est fait pour. Disons, politiquement, on pourrait dire, c'est une façon de dire, si vous êtes les chefs par-dessus les autres chefs, sans qu'on les, sans leur accord, en quelque sorte, vous allez au-devant de grandes difficultés. Prenez-les avec vous. Si on met les deux choses ensemble, ça veut dire que, quand les Bnei Israël doivent sortir d'Égypte, ils ne doivent pas sortir avec un seul chef ou deux chefs, mais des chefs entourés de d'autres chefs. Garder la structure, garder l'organisation d'Israël entre eux, avec leur chef, etc. Gardez-la. Bon, vous allez les diriger, mais associez-les à vous. Ne vous les mettez pas à dos, quoi, en quelque sorte. Donc, on peut dire, voilà, si on veut sortir d'Égypte, ça ne peut se faire que si, à la limite, tout le monde participe, quoi, du point de vue d'Ebné Israël. Donc il faut que les chefs d'Ebné Israël soient partie prenante dans cette affaire. Parce qu'on est encore avant la sortie ici. On ne sont pas encore sortis, n'est-ce pas?
Est-ce que c'est un sens de dire que justement le fait qu'il n'y ait pas d'ordre, ça met l'accent sur le fait sur la structure familiale du groupe, puisque c'est idéologique.
Peut-être pas obligatoirement familiale, mais la structure déjà existante. Et on ne va pas bouleverser la structure en cassant les chefs, si on veut, et en n'ayant plus que deux chefs centraux, quoi. Et, bon, on laisse la hiérarchie en place. Donc le Midrash a l'air... Alors est-ce que c'est parce que de toute manière Moshe, finalement il n'est pas tout seul, il faut déjà annoncer c'est Moshe et Aaron, alors peut-être que ça veut dire qu'il ne faut pas se contenter de passer de 1 à 2, mais d'amener toute la structure possible avec eux. Ça, ils les auraient cassés. Moi, chez Aaron, ils ont tous les pouvoirs. Ils auraient pu voir casser les chefs. Seulement, ils allaient essayer de se révolter, probablement. Mais bon.
Je ne sais même pas s'ils auraient l'intention de casser les chefs ou pas.
Mais on n'a pas dit qu'il y avait l'intention. Mais de facto, si tu décides tout seul, ben, tu coupes l'herbe sous les pieds des chefs. Les chefs, ils vont ressentir que, mais pourquoi d'ordinaire, c'est moi qui décide? On va décider par-dessus moi, qu'est-ce que c'est?
Et c'est un processus à la décision.
Oui, associé à la
décision. C'est un processus temps même, je veux dire, on connaît le printemps arabe, par exemple, c'est ce qui me vient à l'esprit tout de suite, et bien j'imagine que la sortie d'Égypte, c'est peut-être un printemps arabe puissance 10. Et le cassage de chef, ils sont fait.
Ils ont cassé les chefs là-bas, non? On a tué tout le monde et ils ont essayé de tout casser, puis après ils se sont rendus compte que. Si on casse tout, on n'a plus rien.
Mais pourtant, le chef principal, Pharo, il a été cassé.
Donc justement, on a gardé son cabot. Tout a été cassé en Égypte, ici. Mais on ne parle pas du chef des Mitzrayim, on parle du chef de Bnei Israël. C'est possible d'ailleurs qu'on puisse interpréter les choses de cette manière-là, c'est-à-dire que de la même manière qu'il faut conserver à Paro son kavod, il faut aussi conserver aux chefs leur kavod. Donc associer les aux décisions.
Mais est-ce que ça veut dire que même si le chef est rejeté par la communauté, par l'assemblée dont il est le chef, est-ce qu'il faut absolument faire en sorte que ce soit celui et qu'il n'y ait pas de mutation, pas de changement, il faut absolument que ce soit celui qui est...
Pas du tout, pour l'instant c'est lui qui... Je ne sais pas par qui, à ce moment-là, les chefs ont été élus, mais a priori c'est la résultante de, a priori, la volonté des différentes tribus. Les tribus, ils ont dessiné les chefs.
Mais ma question c'est qu'en fait, les chefs, en général, quand ils gicle, c'est parce qu'ils doivent gicler, c'est parce qu'ils doivent se dégager, c'est parce qu'ils sont refusés par la communauté.
Mais on ne veut pas du tout les refuser. Et ils ne sont pas refusés, simplement, on est dans un nouveau monde, on entre dans un tout nouveau monde. Ils vont sortir d'Égypte, eux c'est les chefs pour l'Égypte. Alors on pourrait dire, de la même manière que quand il a fallu changer les chefs, quand on a passé du désert à Eretz Israël, il a fallu changer les chefs, On a vu que ça ne s'est pas passé facilement. Mais là, c'est sûr que ceux qui étaient les chefs en Égypte, ils ne vont pas accepter facilement de ne plus être les chefs, parce qu'ils ne sont sûrement pas adéquats pour guider le peuple. Ben, mettez-les, prenez-les avec vous. Petit à petit, vous allez ou les former, ou bien les changer. Mais il n'y a pas l'impression que qu'on passe par-dessus leur tête. Et...
C'est une technique de guerre, ça, en fait. C'est que, bien qu'on trouve ses ennemis, on peut les mettre tout à soi. Et c'est ce que fait Pharaon avec les chefs locaux. Il les a associés à sa cour. Il n'a pas envie de savoir. Il a associé les chefs locaux.
Mais le Midrash dit le contraire quasiment. Le Midrash dit que, pas le contraire, le Midrash dit que c'est les chefs qui tenaient complètement Pharaon. Parce qu'ils le soupçonnaient de collaboration avec les Juifs. Ils l'ont obligé à faire toutes sortes de choses.
Tu veux dire, on a tout dit, ça change rien. Si moi j'ai entendu comme ça, mais vous dites dans le Midrash différemment, mais c'est pas dans les cas.
Les chefs d'Israël ont été changés dans les airs.
Non. Oui, bien sûr. Mais pas violemment, c'est-à-dire associer les chefs et puis ensuite on change. Voilà, on s'arrêtait là.
D'accord, et merci beaucoup pour le technicien qui a tout réparé.
Le technicien, c'est Bellamy.
Ah oui,
mais
techniquement
à lui que je... Il est vexé, tu l'as traité de technicien.
Je suis pas technicien.
Technicien toi-même.
Chef, technicien toi-même, exactement.
Pardon, le responsable.